été avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Merci de votre fidélité. Dans 30 minutes, nous dresserons ensemble un bilan de l'action du président centrafricain. Il y a quasiment un an, jour pour jour, Faustin Archange Touadéra s'apprêtait à prendre ses fonctions. Son élection, rappelez-vous, avait suscité un immense espoir après les 3 années de violence intercommunautaire. Faut dire que tout le pays était à reconstruire, tout était prioritaire. Le président Touadéra s'était engagé à restaurer la sécurité, à instaurer la paix, à favoriser la réconciliation nationale ou encore à relancer l'économie. Alors, un an après, quels sont les changements constatés? Vous qui êtes sur place, vous qui nous écoutez en ce moment à Bangui et sur l'ensemble du territoire centrafricain, dites-nous si le président Touadéra est à la hauteur de vos attentes. Vos réactions, en tout cas, sont particulièrement tranchées sur la page Facebook de l'émission. Amadou lui dresse un bilan très négatif. Il nous dit que les groupes armés contrôlent plus de 60% du territoire. Le processus du désarmement est en panne, aucune initiative pour la réconciliation, l'économie est inexistante, l'éducation est en ruine. Voilà pour le bilan de cet auditeur. Quant à André, nous dit comment peut-on diriger un État sans armée nationale? Là aussi, on le voit bien à travers vos réactions que la sécurité reste votre priorité numéro un. Nous vous donnerons la parole dans 30 minutes. D'ici là, évidemment, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, à cette heure-ci, c'est votre rendez-vous privilégié pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité, les sujets que vous entendez dans nos différentes éditions. On vous en parlait à l'instant dans le journal de Grégory Lesca, la crise diplomatique entre la Turquie et les Pays-Bas et par ricochet entre la Turquie et l'Union Européenne. Arfan, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, comment vous allez?
Très très bien, vous nous appelez de Dakar au Sénégal et vous avez plusieurs questions concernant donc cette brouille diplomatique.
Bien sûr. L'interdiction de la visite des deux ministres turcs lors de la campagne pour le référendum aux Pays-Bas a créé une nouvelle crise diplomatique de l'Union européenne vis-à-vis de la Turquie. Pourquoi les autorités néerlandaises ont décidé d'interdire au dernier moment la visite des deux ministres turcs?
Alors, ne raccrochez pas, je sais que vous avez plusieurs questions. Arfan, c'est vrai que samedi, les Pays-Bas ont interdit à deux ministres turcs de participer à des rassemblements pro-Erdogan devant la diaspora turque à Rotterdam, ce qui a provoqué la colère du président Recep Tayyip Erdogan. Bonjour Dorothée Schmitt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci d'être en ligne ce matin sur l'antenne d'RFI. Vous êtes chercheuse et spécialiste de la Turquie contemporaine à l'Institut français des relations internationales. D'abord, juste pour bien planter le décor et que tous nos auditeurs à travers le monde comprennent, pourquoi le parti présidentiel turc organise depuis maintenant plusieurs semaines des meetings un peu partout en Europe?
Alors, le parti présidentiel turc est en campagne pour une votation qui va avoir lieu le 16 avril, un référendum qui doit donner à l'actuel président de la République, Recep Tayyip Erdogan, des pleins pouvoirs, conforter finalement aujourd'hui sa pratique du pouvoir qui est très personnalisée. Et les sondages jusqu'à présent en Turquie donnent le oui et le non au coude à coude pour ce référendum. Alors on ne peut pas savoir si ces sondages sont extrêmement fiables, mais on sent qu'en tout cas il y a un très gros enjeu avec ce référendum. Et en Europe, on a une diaspora turque qui est importante. C'est la communauté de migrants la plus importante présente sur le territoire de l'Union européenne, ce sont les Turcs. Et depuis 2014, les Turcs européens peuvent voter sur le territoire des pays de l'Union européenne. Donc il y a un très gros enjeu électoral, il faut absolument mobiliser les voix de cette diaspora turque en Europe.
La diaspora turque en Europe qui est estimée à plus de 4 millions de personnes, dont plus de la moitié a le droit de voter en Turquie. Alors revenons aux événements de samedi dernier. Les autorités néerlandaises ont pris des mesures fermes puisqu'elles n'ont pas hésité à interdire l'avion du ministre turc des Affaires étrangères d'atterrir à Rotterdam, et sa collègue qui est en charge de la famille, elle a carrément été raccompagnée à la frontière allemande. Comment expliquer cette réaction des autorités néerlandaises?
Donc il y a eu pendant la semaine une escalade assez rapide qui nous amène aujourd'hui à aussi d'autres interdictions de meetings électoraux turcs sur le sol des pays de l'Union européenne. Tout a commencé par l'interdiction d'un certain nombre de meetings dans des villes allemandes, des décisions qui ont été prises au niveau local pour des raisons avancées de logistique, mais il est probable qu'on avait une inquiétude sur les conditions de sécurité dans lesquelles ces meetings pourraient avoir lieu, puisque l'Allemagne est le pays où il y a la plus importante communauté turque en Europe et qu'on a une situation de très grande tension entre les différentes composantes de cette communauté, entre les pros et les anti-régimes, entre les pro-Gulen, cette fameuse confrérie qui est accusée par le gouvernement d'avoir tenté de fomenter un coup d'État en juillet 2016, entre Kurdes et Turcs. Bon, donc on a une situation très tendue en Allemagne, des interdictions de meeting qui ne sont pas décidées au niveau fédéral, mais au niveau des États.
Ce sont les municipalités, effectivement, en Allemagne, qui ont interdit la tenue de ces rassemblements. Concernant la décision des autorités néerlandaises, puisque là, elles sont aucun autre pays de l'Union européenne n'avait été aussi loin en chassant carrément un ministre turc du territoire.
En réaction, les Turcs traitent les Allemands de nazis, ce qui fait déjà monter la tension d'un niveau. Pendant ce temps-là, les autorités néerlandaises qui doivent accueillir un meeting à Rotterdam demandent une réorganisation du calendrier de ces meetings. La négociation est en cours avec les Turcs, puis les autorités néerlandaises disent aux Turcs que le meeting devrait avoir lieu après le 16 avril. Et les Turcs refusent, les autorités néerlandaises font face à une montée de l'extrême droite dans leur pays. Il y a une manifestation organisée par Geert Wilders, le leader d'extrême droite néerlandaise, devant l'ambassade de Turquie. Et à ce moment-là, les autorités néerlandaises décident de annuler ce meeting. Et les Turcs décident, eux, qu'ils vont quand même envoyer leur ministre. Donc on a vraiment un bras de fer qui se noue entre les deux. Et vous savez que le bras de fer, ensuite, dans notre séquence dont on parle, il s'est dénoué par le fait que Mevlut Çavuşoğlu, donc le ministre des Affaires étrangères turc, est venu en France pour faire un meeting à Metz.
Effectivement,
ce
c'était
week-end.
Dimanche.
Donc
c'était
tout ça
dimanche.
S'est passé très rapidement.
Effectivement, et c'était dimanche, la France a autorisé la venue du ministre turc des Affaires étrangères à Metz, donc dans l'est de la France. Aucun débordement n'a d'ailleurs été signalé lors de ce meeting. Alors, en tout cas, la réaction des Allemands, la réaction des Néerlandais a provoqué la colère du président Erdogan, le président turc qui a d'ailleurs multiplié ensuite les attaques verbales. Et justement, Arfan, vous avez des questions là-dessus.
Erdogan a qualifié les Pays-Bas de relent du nazisme comme il l'avait fait avec l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il cherche en évoquant le mot nazisme ?
Alors, Dorothée Schmidt, effectivement, ce terme, ce mot nazisme est revenu à plusieurs reprises dans la bouche du président Erdogan ces derniers jours. Bonne question, pourquoi ? Pourquoi ce terme ? Que cherche-t-il exactement ?
Voilà, d'abord, quand vous dites qu'il n'y a pas eu d'incident à Metz, effectivement, il n'y a pas eu d'incident physique, mais le ministre a quand même ouvert son meeting en disant que La Haye était la capitale du fascisme en Europe. Je pense que c'est assez problématique de tenir ce type de meeting et de propos sur le sol d'un pays de l'Union européenne, même si la France considère qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Je pense qu'on a beaucoup évoqué le problème de la solidarité européenne. Je crois que l'Union européenne, elle s'est construite sur les vestiges de la Seconde Guerre mondiale. C'est une communauté qui est là pour amener la paix et effectivement tourner la page précisément des régimes illibéraux, des fascismes et du nazisme des années 30. Ce qu'il faut comprendre quand les Turcs agitent ce type de référence, c'est que les Turcs n'ont pas participé à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne en 1945, juste avant la fin de la guerre, et ils se sont trouvés du bon côté pour participer ensuite au règlement de compte, je dirais, post-Seconde Guerre mondiale. Mais pendant toute la guerre, ils ont en réalité marchander leur participation en hésitant entre le côté allemand et les alliés. Donc pour les Turcs, le mot de nazisme en réalité n'a pas du tout le même sens qu'il a pour nous. Ça ne représente pas le même trauma, il n'y a pas eu une présence sur le sol turc du nazisme, il n'y a pas eu du tout des relations diplomatiques qui sont semblables. Simplement, un minimum de culture générale devrait faire comprendre au gouvernement turc que précisément la sensibilité européenne est tellement forte à ce type de mots que c'est tout à fait impossible de les utiliser comme ça à la légère. Et vous avez vu une chronique d'Arnaud Le Parmentier dans Le Monde hier qui disait « Ceci signe la fin du processus d'adhésion. Si les Turcs ne sont pas capables de comprendre que précisément l'Union européenne est construite contre le nazisme et qu'on ne peut pas agiter ses références à la légère, eh bien on n'a pas sa place dans l'Union européenne. »
Effectivement. Autre question, Dorothée Schmitt, et réponse un peu plus rapide, concise, si vous le permettez. On a beaucoup d'auditeurs ce matin. Alpha Amadou nous appelle de Guinée. Il est à Lelouma exactement, c'est dans la région du Fatou Djalon, dans le centre du pays. Bonjour Alpha Amadou.
Bonjour Monsieur Wan et bonjour à tous les fidèles auditeurs.
Nous vous écoutons.
Par rapport à cette bouille diplomatique entre ces deux pays, j'ai envie de savoir quelles seront les conséquences de ces sanctions dans les futures relations entre ces deux pays.
Les sanctions politiques adoptées par les Pays-Bas lundi, Dorothée Schmitt, une série de mesures a donc été annoncée. Par exemple, l'ambassadeur néerlandais à Ankara, qui est actuellement à l'étranger, n'est pas autorisé à revenir en Turquie. Les relations au plus haut niveau et les rencontres prévues au niveau ministériel ont été suspendues entre la Turquie et les Pays-Bas. En fait, Ankara attend désormais des excuses.
Oui, mais les Néerlandais aussi. Donc je ne sais pas très bien qui va dénouer cette crise diplomatique, parce qu'évidemment le problème c'est ensuite les relations avec l'UE dans son ensemble et puis aussi peut-être avec l'OTAN, puisque ces deux pays sont aussi des piliers de l'OTAN. Maintenant, le niveau de sanctions qui serait intéressant à surveiller, ce sont d'éventuelles sanctions économiques, parce qu'en réalité les Néerlandais sont les deuxièmes investisseurs en Turquie et que donc la présence économique hollandaise en Turquie est extrêmement importante.
Ouais, 20 milliards de dollars injecté par les Pays-Bas ces 10 dernières années en Turquie. Ce qui est sûr, c'est que la Turquie, de son côté, n'envisage pas de sanctions économiques. En revanche, les Pays-Bas, eux, pourraient sanctionner la Turquie.
Oui, alors je ne sais pas très bien dans quel sens on pourrait sanctionner la Turquie, mais je pense que...
En tout cas, économiquement. Économiquement.
Oui, mais quel serait l'intérêt des Néerlandais à sanctionner? Je crois que le problème est un peu plus large aujourd'hui, c'est celui de la sécurité des investissements en Turquie. Vous savez que aujourd'hui la Turquie est repassée au niveau spéculatif pour deux des grandes agences de notation financière. C'est un pays où le risque politique aujourd'hui commence à être suffisamment élevé pour poser un problème aux investisseurs.
Merci Dorothée Schmitt d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Turquie contemporaine à l'Institut français des relations internationales. Il est 9h22 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70. Une question sport maintenant. Et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler football. Bonjour Abakar.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Paris, on vous écoute.
Oui, bonjour Anne. En fait, lundi dernier, contre toute attente, les présidents du Racing 92 et des Stades français ont décidé de fusionner ces deux grands clubs. Je voudrais savoir, Anne, pourquoi cette fusion? Quel sera l'avenir des joueurs comme Dan Carter, Sergio Paris, des entraîneurs et des dirigeants? Et enfin, ma dernière question...
Alors, on va déjà répondre, si vous le permettez, à ces deux D'accord. questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions, et quand vous avez appelé le standard, je crois qu'on a dû noter 7, 8 ou 9 questions. Bonjour Antoine Renier.
Bonjour Juan, bonjour Abakar, bonjour
Merci
tout le monde.
D'être avec nous, journaliste au service des sports d'RFI. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, nous allons parler rugby. Ces deux clubs, cités à l'instant par Abakar, sont des deux institutions du rugby français, des clubs fondés à la fin du 19e siècle. C'est vrai que l'annonce a surpris tous les amateurs, tous les passionné de rugby. Il va y avoir fusion entre donc le Racing Métro 92 et le Stade français. Pourquoi ont-ils décidé de se marier?
Ben, ça a d'autant plus surpris Juan que ce sont deux équipes qui, en plus d'être des institutions, sont deux rivales. Ouais. C'est comme si, je vais faire appel à l'espagnol qui rugit en vous, c'est comme si on disait que le Real Madrid et l'Atlético Madrid fusionnaient. Ça paraît impensable. Officiellement, l'objectif de Thomas Savard et de Jacky Lorenzetti, les deux présidents des deux clubs, c'est de créer le meilleur club de France. C'est pas impossible d'ailleurs, parce que les moyens cumulés, le savoir-faire des deux clubs, c'est les deux derniers champions de France, hein, le Racing et le Stade français. L'objectif, c'est donc de créer un monstre du rugby français et européen. Ce qui n'est pas inconcevable, ça s'est déjà vu en rugby, des fusions, il y en a eu beaucoup, il y en a eu une fameuse, celle de l'Union Bordeaux-Bègles, entre un club de Bègles et un club de Bordeaux au début des années 2000. En plus, c'est une fusion à minima, on va dire, parce que ça ne concerne que les deux équipes pro, alors que en junior et en féminine, le Stade français et le Racing continueront à avoir leurs équipes propres.
Donc il y a des intérêts sportifs et j'imagine des intérêts économiques.
Ah bah évidemment, il y a toujours l'officiel et l'officieux. Là, l'officieux pour le coup, bah, c'est les difficultés financières du Stade français qui perd à peu près 5 millions d'euros par an. C'est beaucoup. Et les actionnaires du Stade français, c'est une famille, la famille Savard. La plupart des membres de la famille veulent lâcher le club. Et là, c'est une occasion, on va pas dire rêver, mais en tout cas, c'est une belle occasion parce qu'en plus, il y a une convergence d'intérêts du côté du Racing. L'objectif, c'est de grandir et surtout de remplir le nouveau stade que le club a construit à la Défense, 32 000 places. Ils veulent le remplir dès la saison prochaine. Et ni le Racing, pour l'heure, ni le Racing, ni le Stade français ne font le plein. Donc, faire un seul club, ça peut permettre de remplir des tribunes à chaque journée de championnat. La nécessité fait loi économiquement, en tout cas.
Évidemment. Et du coup, il va falloir faire un tri dans les joueurs. On va pas garder les ils sont combien d'ailleurs en rugby?
45 par équipe. Dans un groupe, en fait.
Il
y a 15 joueurs.
Donc on va pas garder 90 joueurs.
Non. Thomas Savard et Jackie Lorenzetti ont initié la règle du 45 plus 45 égale 45. C'est-à-dire qu'ils vont garder la moitié de l'effectif actuel des deux équipes. Les deux effectifs seront fondus en un seul. Les meilleurs seront conservés, donc Dan Carter et Sergio Parissé dont parlait Aboubakar, a priori ne sont pas menacés. Le seul problème, ça va être le salary cap, parce que dans le top 14, on est obligé d'avoir une masse salariale qui ne dépasse pas 10 millions d'euros. Donc il va falloir faire des choix qui seront à la fois sportifs pour que l'équipe soit extrêmement performante et des choix économiques pour éviter d'être sanctionné par la Ligue de rugby. Du côté des entraîneurs, c'est très clair. Laurent Labitte, Laurent Travers, qui entraînent actuellement le Racing, seront les entraîneurs de la future équipe. Pour les dirigeants, c'est un peu plus le flou. Pour l'instant, on parle d'une présidence tournante.
Tous les deux ans. Hein, voilà.
Exactement. Thomas Savard va diriger le nouveau club pendant 2 ans. Ensuite, Jackie Lorenzetti. Mais ça, c'est ce qui est marqué sur le papier. Peut-être que Thomas Savard va se désengager dans les 2 ans qui viennent et laisser la main libre à Jackie Lorenzetti. On peut imaginer qu'il enlève toutes ses billes du Stade français.
Ouais, on parlait des joueurs à l'instant. Cette fusion est loin de faire l'unanimité puisqu'on l'a appris hier. Les joueurs du Stade de France annoncent une grève illimitée, ils refusent de s'entraîner, il y a de fortes chances que le match prévu en championnat contre Castres samedi n'ait pas lieu puisque les joueurs ont l'intention de boycotter.
Et ça risque de poser un gros problème parce que dans les règlements du championnat de France, du top 14, si une équipe ne participe pas à 3 matchs, déclare forfait pour 3 matchs, elle est tout simplement disqualifiée. Donc ça voudrait dire que si la grève dure un mois ou un mois et demi, le Stade français pourrait ne même pas terminer sa dernière saison en tant que club de rugby professionnel.
Ouais, Alpha Amadou, vous avez une autre question?
Oui, allô?
Ah oui, Aboubakar, pardon, excusez-moi. Aboubakar, oui. Désolé, j'avais une autre fiche devant mes yeux. On vous écoute, Aboubakar.
Oui, ma dernière question, c'est avec cette fusion, une place se libère. Est-ce qu'il y aura 3 clubs qui feront leur entrée au top 14 ou une seule sera léguée entre les deux?
Alors, une place va se libérer effectivement en top 14. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on sait comment la Ligue nationale de rugby va gérer?
Alors, une place va se libérer uniquement si la fusion arrive à son terme.
Enfin, visiblement.
Est-ce que ça va? C'est la décision des dirigeants. Mais quel sera le poids des supporters? Quel sera le poids des joueurs si les joueurs décident de ne pas fusionner et d'empêcher la fusion? On ne sait pas trop ce qui peut se passer. Bon, on va prendre l'hypothèse qu'elle va avoir lieu, cette fusion. Donc, là, c'est du ressort de la Ligue pour tout ce qui concerne les relégations et les montées. La Ligue qui s'est réunie hier à l'annonce de cette fusion, elle a été d'ailleurs très surprise parce qu'elle n'avait pas été prévenue très longtemps à l'avance, et elle se réunit encore aujourd'hui pour discuter. Le règlement, il est très simple, il prévoit pas ce cas de figure, il prévoit pas de fusion de clubs. Il prévoit simplement, en cas de rétrogradation financière ou de refus de monter de la part d'un club de Ligue 2 empêché pour des raisons financières, et ben dans ce cas-là, on a un seul relégué. On aurait un seul relégué du top 14 et une seule montée. L'autre hypothèse, ça pourrait être un barrage entre l'avant-dernier du top 14, actuellement Bayonne, et le vaincu du barrage d'accession au top 14. Mais ça, c'est complexe parce que pour des raisons notamment de calendrier, c'est très difficile de faire coïncider deux nouveaux matchs, enfin un nouveau match dans la saison.
Aboubakar, on a répondu à vos questions.
Tout à fait, Juan.
Voilà, vous suivez le top 14?
Exactement, je suis beaucoup le top 14 et en l'occurrence les tournois à destination.
D'accord, très très bien. Bon bah écoutez, et vous avez été, bon comme tout le monde évidemment, surpris, mais vous êtes choqué vous par cette fusion ou finalement au regard des explications d'Antoine Grenier, elle est logique?
Alors, tout à fait, elle est tout à fait logique, mais comme on le dit, voilà, il y a beaucoup de supporters qui étaient surpris, même la FFR, et du coup, on ne sait pas comment cette fusion va se passer, où est-ce qu'elle va mener, en fait.
Ouais, voilà. Des supporters surpris et des supporters également mécontents. On a pu les entendre et les voir ces deux derniers jours. C'est vrai que la fusion ne fait pas l'unanimité. Antoine Grenier? Merci.
Merci, Juan.
À bientôt, je l'espère. Il est 9h29 à Paris. Dans une minute, on retrouve la rédaction pour le point complet sur l'actualité. On reviendra tout de suite après pour débattre ensemble de la situation en Centrafrique un an après la prise de fonction du président Touadéra. Rappelez-vous, son élection avait suscité un immense espoir. Nous vous donnerons la parole et ce sera donc juste après le journal.
Parce qu'un pays riche en infrastructures